Inter présente Féfé. En tournée dans toute la France et à l'Élysée Montmartre, à Paris le 12 mars. Retrouvez Féfé et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com. France Inter,
la différence.
Il est 15h04, je vous retrouve à 16h. Je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour, Marie Gallego, Clermont-Ferrand. Je suis désolée, triste de monopoliser encore l'antenne, mais j'ai besoin de dire encore mon indignation et ma colère. Certes, Salima devait ou devrait revenir dans 10 jours avec un visa de long séjour. Mais Salima aura vécu l'horreur d'une arrestation quelque peu musclée par la police alors qu'elle était couchée. Elle aura été enfermée pendant 15 jours dans un centre de rétention. Elle a vécu dans l'angoisse pendant tous ces jours. Elle a été expulsée, escortée par des policiers. Dans quel état psychologique Salima va-t-elle revenir, même si nous lui avons apporté tout notre soutien et avons fini par lui trouver une famille d'accueil à Casablanca? Monsieur le préfet, représentant de la République, fonctionnaire d'État, vous allez probablement lui permettre de revenir. Alors, pourquoi l'avoir arrêtée, enfermée, expulsée? Et vous allez... Ce qui me paraît encore plus grave, vous allez récidiver, puisque selon vos propos dans le journal local, Salma, sa sœur jumelle, va subir le même sort. Vous dites que Salma, je cite, a vocation à être expulsée. Ça me laisse sans voix tout ça. Le seul crime commis par ces deux sœurs, c'est d'être entrées en France à 13 ans, sans visa. Alors que la grand-mère qui les élevait au Maroc, et vous en avez les preuves, monsieur le préfet, venait de décéder. Monsieur le préfet, savez-vous que vous mettez à mal notre rôle de fonctionnaire de l'éducation nationale et notre mission d'enseigner? Comment enseigner la citoyenneté à des élèves qui vivent dans l'angoisse de ne pas pouvoir rester en France et qui, à leur majorité, seront probablement expulsés, sachant que leur seul crime, c'est de ne pas avoir eu la chance d'être français?
Allô?
Oui, bonjour, Pascal Pascarillo, je travaille pour France Inter.
Oui.
Et on m'a demandé d'appeler ce numéro pour joindre Patrick Stefanini, le préfet depuis Dom.
D'accord, je vais vous le passer. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour madame, Patrick Stefanini, préfet de la région Auvergne.
Monsieur le préfet, je suis contente de vous avoir parce que j'avais Salima ce matin au téléphone avant qu'elle soit expulsée au Maroc. Et donc elle me demandait comment, enfin elle se posait beaucoup de questions parce que... Comme elle est arrivée à l'âge de 13 ans en France, qu'elle n'avait pas de famille au Maroc, là, elle faisait tout un parcours justement pour s'intégrer puisqu'elle était en contrat d'apprentissage à Clermont-Ferrand.
Je vais être claire avec
vous. Elle se posait la question, qu'est-ce que j'ai pu faire? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus pour rester en France, surtout qu'elle n'a plus de famille au Maroc?
Je vais répondre à cette question qui est très simple. D'abord, Salima n'a pas été expulsée au Maroc. Elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Et la différence entre l'expulsion et la reconduite à la frontière, c'est qu'on est reconduit à la frontière parce qu'on est en séjour irrégulier en France, mais on a ensuite la possibilité, en se conformant à la loi, de revenir sur le territoire français. Je suis naturellement d'accord pour que cette jeune personne sollicite au consulat de France à Casablanca un visa de long séjour pour pouvoir obtenir un titre de séjour en France.
Vous ne pensez pas que ça aurait été possible, plutôt que de faire un aller-retour en avion, monsieur le préfet, d'attendre...
Non, madame, la loi française doit être respectée. Mon rôle en tant que préfet est de faire respecter la loi.
En tout cas, si j'observe un article paru le 20 septembre 2007 dans La Vie, et je cite vos propos... Par rapport aux nouvelles règles de l'immigration, je cite ce que vous dites, il s'agit de permettre à certains migrants, notamment ceux qui viennent en France parce qu'ils y ont une famille, c'était le cas de Salima qui a sa tante, de mieux se préparer à leur intégration. La première clé d'une intégration réussie, c'est la maîtrise de la langue. Salima, en l'occurrence, parlait parfaitement français. La seconde, c'est la connaissance et le respect des valeurs de la République. Je ne pense pas qu'elle ait eu un casier judiciaire.
Madame Salima n'était pas en possession d'un titre de séjour. La France, madame, n'est pas un supermarché dans lequel on entre et on sort à volonté. J'ai fait appliquer la loi, et encore une fois, je tiens à faire appliquer la loi.
Je sais votre envie de faire appliquer la loi, et ce, à la lettre. Je regardais votre parcours, vous avez été notamment nommé à la tête du comité interministériel du contrôle de l'immigration. Vous avez participé activement justement à la création du nouveau ministère en mai 2007 de l'immigration et de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire. Et si je me trompe, vous pouvez me couper, hein, monsieur le préfet. Et ce qui m'a interpellée également, monsieur Stefanini, quand vous me dites que c'est très important de respecter la loi, et la loi française en particulier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, finalement. Parce que si je regarde également votre parcours, en janvier 2004, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 12 mois de prison avec sursis. Bon, après, vous avez fait appel et donc vous avez eu 10 mois de prison avec sursis pour recel de prise illégale d'intérêt. C'était dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Donc, vous faites respecter très bien la loi et finalement, en l'occurrence...
Moi, j'ai été nommé préfet de la région Auvergne. Et n'essayez pas de détourner le sujet.
C'est-à-dire que pour quelqu'un qui doit faire appliquer la loi, c'est vrai qu'on peut s'interroger, on se dit oui, c'est bien de faire appliquer la loi, mais vous n'avez pas, vous aussi, respecté la loi.
En ce qui me concerne, ce qui intéresse vos auditeurs, ce n'est pas ma situation personnelle.
Oui, je pense que ça les intéresse de savoir qui applique la loi en France.
Au cas où vous l'ignoreriez, je n'ai pas été privé de mes droits civiques, et donc la condamnation à laquelle vous faites allusion n'a eu aucune influence sur l'exercice de mes droits civiques et sur ma capacité à exercer une responsabilité au sein de la fonction publique.
Monsieur le préfet, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas rien comme condamnation, c'est-à-dire que...
Je suis un ressortissant français et que personne n'a jamais mis en cause ma capacité à rester sur le territoire national.
Permettez-moi aussi quand même... Là, madame.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Salima.
Oui.
Ça va? Alors, expliquez-moi un peu où vous êtes, là, Salima.
Je suis toujours chez une famille d'accueil.
Dans la famille d'accueil?
Oui, c'est les professeurs qui sont trouvés. Là, il y a le ministre du Maroc qui m'a appelé pour aller préparer les documents et tout ça.
Le ministre du Maroc?
Parce que comme quoi, j'ai rien ici au Maroc, ni feuille, ni rien.
Donc, vous êtes en train de faire vos papiers du côté marocain?
Oui, parce que j'ai rien ici.
On s'est quitté hier matin quand les policiers sont venus vous chercher avant de vous amener à l'aéroport.
Oui.
Pour partir au Maroc. Et comment ça s'est passé alors? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu?
J'ai préparé mes affaires, mes bagages. Ils ont cassé mes bagages.
Ils ont cassé vos bagages?
Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai trouvé que c'était dans un sac plastique.
Toutes vos affaires ont été mises dans un sac plastique?
Oui. Ça m'a fait bizarre, mais bon. Je voulais me mettre des menottes. J'ai dit non, je ne mets pas de menottes. Et après, ils m'ont forcé pour monter. Et tout ça, et après, je trouve la famille d'accueil qui m'attend, les journalistes de France.
Quel effet ça vous a fait de voir tout ce monde vous attendre
j'avais
à l'aéroport?
J'avais peur, j'étais pas à l'aise.
Vous aviez peur?
Ouais, les gens ils me regardent. Comme si tu tuais quelqu'un.
Comme si vous aviez tué quelqu'un?
Oui, comme si j'avais tué quelqu'un.
Et les autorités françaises, est-ce qu'elles vous ont. Elles ont fait des démarches vers vous? Est-ce qu'elles vous ont signalé que vous pouviez commencer à demander un visa de long séjour ou pas?
Oui, ils m'ont dit qu'il faut m'appeler soit aujourd'hui, soit demain, pour préparer le visa et tout ça.
Comment vous vous sentez aujourd'hui, Salima? Est-ce que vous avez encore peur? Enfin, comment ça se passe?
Mieux que le centre.
Mieux que le centre?
Oui, je sais, il y a un peu de stress, je ne sais pas quoi faire, mais c'est mieux que le centre. Les gens qui restent là-bas, je les ai bon courage.
Vous souhaitez bon courage pour tous ceux qui sont encore dans le centre de rétention?
Oui.
Vous avez eu des nouvelles de votre sœur?
Hier, Raphaël m'a dit Fabien. Et lui a dit comme quoi dans 10 jours je rentre.
Elle va bien?
Oui, elle va bien.
Vous avez peur qu'elle soit expulsée comme vous?
Oui, oui. De l'envoyer, elle aussi en centre. En centre, parce qu'en centre, elle va pas tuner. Je déteste maintenant même le mot de centre.
Même le mot centre, vous supportez pas?
Il y en a qui font rien et ils les ramènent là-bas.
Là, ça va faire 13 jours en centre.
Oui.
10 jours au Maroc, ça fait presque un mois.
Oui. C'est un mois, ma vie s'est changée de ce mois.
C'est un mois où votre vie a changé?
Oui. Un jour le lendemain, je trouve sans avec ma famille, ni avec mes collègues de travail, ni de ma fille, ni rien. Ça m'a fait bizarre. Ça allait très vite même.
Ça allait très vite?
Oui. J'aimerais bien rentrer tout de suite. Cet après-midi, je vais à Rabat.
Oui.
Et après, la famille d'accueil, il faut me ramener à la plage un peu, prendre l'air. Et après, je rentre à la maison. Je fais un petit peu mes devoirs.
C'est un peu une vie qui tente de recommencer.
Oui. Ça fait même bizarre les gens ils parlent arabe. Mais même la famille d'accueil me dit l'arabe. Je l'ai perdu l'arabe.
Vous l'avez perdu l'arabe?
Oui. Cette fois, je suis pas d'ici quand je parle.
Vous êtes pas de là-bas, enfin vous êtes pas d'ici, ça veut dire vous êtes pas du Maroc, vous êtes une étrangère au Maroc?
Oui, c'est ça. J'ai pas de passeport ici, j'ai rien.
Ah, Salima, on se rappelle?
D'accord.
Au revoir.
Alors Salima a été expulsée. Bon, paraît qu'on va lui faire des papiers en règle et qu'elle va pouvoir revenir. Reste une question. Pourquoi Salima a-t-elle été expulsée? Au nom de quoi peut-on refuser à quelqu'un le droit de vivre sur un territoire? Mais ce qui est surprenant dans cette histoire d'identité nationale et d'immigration, c'est que les autorités envisagent le problème sous un jour différent selon les circonstances. Tandis que Mohamed Mechti, lui, il voulait vivre et mourir au Maroc. Il se sentait très bien au Maroc. Mohamed Mechti était un goumier, c'est-à-dire un soldat d'une formation militaire, recruté par la France au Maroc entre 1908 et 1956. Mechti a passé 16 ans, entre 1940 et 1956, à servir sous le drapeau français, comme on dit. Fort de cette déclaration du général de Gaulle, tous les combattants ont les mêmes droits. Quand il s'agit de se battre pour la France, les autorités sont beaucoup moins bégueules que lorsqu'il s'agit tout simplement de venir y vivre. Ça doit être ça, l'immigration choisie. Sauf que, une fois rentré chez lui, sur les hauteurs de Ouazzane, au Maroc, Mohamed Mechti s'est retrouvé avec une pension militaire mensuelle équivalente à 79 euros. Environ 10 fois moins que les Français. Les vrais, bien sûr. Mechti est donc revenu en France en 1996 pour mener une bataille juridique cette fois. Pour pouvoir vivre en France et avoir droit au minimum vieillesse, lui qui avait toute sa famille au Maroc, il était obligé de résider 9 mois sur 12 sur le territoire français. Droit que l'on conteste à Salima, qui désire vivre en France et qui n'a plus aucune raison de vivre au Maroc. Mohamed Mechti est mort dimanche dernier, le 31 janvier, à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, à 90 ans, épuisé par cette dernière bataille qui aura duré presque aussi longtemps que celle qu'il a livrée pour le compte de l'armée française. Il est mort après avoir touché seulement 1 mois de pension militaire normale, c'est-à-dire revalorisée, et seulement 4 années d'arriérés sur les 50 ans que la France lui doit ainsi qu'à tous ses anciens combattants africains du Maghreb, du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie. Un hommage sera rendu à Mechti ce vendredi 5 février à 18h à l'amicale laïque du Paty, 81 rue Bourbon à Bordeaux, en présence bien sûr des élus. D'ailleurs j'emprunte les derniers mots de mon propos à Naïma Charaï, conseillère régionale et présidente de l'association Les Oubliés de la République. Ces hommes ont défendu les valeurs de la République et le gouvernement ne fait rien pour eux. Pis, il attend la disparition du dernier indigène avant de lui faire les honneurs de la nation.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. J'apprends avec plaisir que Salima devrait pouvoir revenir en France. Une belle victoire quand même de la pression et de la mobilisation générale. Nous, on est sur la route du retour, retour depuis le Honduras et le Salvador, nos micros pleins d'histoires et de choses à vous faire partager dans les jours et semaines à venir. Aujourd'hui, dans la base, si j'y suis, on reste au-delà du cercle polaire et on en découvre que dans les terribles goulags, il y avait quand même une forme de résistance. Cette forme, c'était le théâtre. Auparavant, encore quelques messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Comme vous le savez, depuis 3 mois, des milliers de travailleurs sans papier tentent d'obtenir leur régularisation. Pour cela, ils sont sortis de l'ombre et ils occupent, quand ils le peuvent, leur lieu de travail. Ils continuent la lutte, malgré l'indifférence, les difficultés financières après 3 mois sans salaire et surtout la peur permanente d'être arrêté. Demain, samedi 6 février, on organise une manifestation de soutien aux grévistes. Départ 14h30, porte des Lilas, où je vous rappelle que le chantier du tramway continue d'être occupé jour et nuit par les grévistes. Ensuite, à 18h, il y aura un concert, rue Ramponneau, métro Belleville. On vous y attend. Il y aura des groupes très sympas, du massé pour manger et des prises de parole des sans-papiers. Les grévistes ont plus que jamais besoin de notre solidarité morale et financière. Voilà, c'était Anne-Claire du comité de soutien du 20e. J'en profite pour saluer le courage des grévistes d'ENM, de Tiali, de la Porte des Lilas, bien sûr, et de Multipro. Venez nombreux demain à 14h30, Porte des Lilas. Les grévistes sans-papiers ont besoin de nous.
Le Café Repère de la Croix-Rousse à Lyon organise son second débat ce vendredi 5 février à 20h30 sur le thème « Où va la Bolivie ?» Le débat aura lieu au Cotopo, 14 rue René Lénaud, sur les pentes de la Croix-Rousse. Métro Hôtel de Ville ou Croix-Paquet. Qu'on se le dise.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, là on est à la sortie du tribunal d'Amiens, c'est cours d'appel, où le jugement a été rendu concernant le verdict des six contis. Et il y a Xavier Mathieu là, qui sort, qui finalement, la prison avec sursis a été levée, a été enlevée pour les six poursuivis, et on lui a mis à la place 4000 euros d'amende. Bon, et donc apparemment il y a largement de quoi dans la caisse pour payer, donc ils sont plutôt contents. Je vais écouter le début du discours de Xavier Mathieu. Salut Daniel, ciao.
Je suis fier d'avoir été votre fils de leurs parents, tous ces mois. Je suis fier de vous, comme vous pouvez être fier de moi, comme la classe ouvrière peut être fière des contis. On a été un symbole. La victoire, la grosse victoire aujourd'hui, elle est que quand on se bat, on peut gagner. Déjà, il faut le vouloir, il faut déjà relever la tête et aller au combat. Les combats ne sont pas terminés, je vous ai dit. Il y a le combat des retraites et beaucoup d'autres. La fonction publique, il est temps. Il est temps qu'une bonne fois pour toutes. Qu'on y aille tous ensemble. Une bonne fois pour toutes. Ouais, dans le privé, après le public, tous ensemble. On est 40 millions de travailleurs. Face à eux, on est énormément. Je sais, on est moins, mais je ne vais pas exagérer. Voilà. Tous ensemble, sur dans la rue, et ce qui leur fait peur, c'est nous. On n'est pas des faibles. Tous ensemble, on est bien plus puissants que n'importe quelle armée. C'est notre force. Les contiers, on a relevé la tête, on a été en combat. Maintenant, c'est à la France d'en faire autant. À la France d'en faire autant. Et je vous garantis que les combats à venir, ils seront certainement même encore plus durs que ce qu'on a vécu. Pourquoi se laisser faire ? Pour pas baisser la tête, on n'a pas fait depuis 11 mois, on n'a pas commencé aujourd'hui. Alors tous ensemble,
tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey,
hey. Давайте музыкальный.
Том, не работает, Том, не лезь.
Меня арестовали как бы формально, это называлось... В военное время контрреволюционная агитация.
Moi, officiellement, j'ai été accusée de faire de l'agitation contre-révolutionnaire. C'était pendant la guerre.
Сталин дал такой приказ.
A donné l'ordre.
Что заключенные должны весело жить.
A donné l'ordre selon lequel les détenus devaient vivre joyeusement.
Они умирают, но они должны весело жить.
Ils mouraient, mais qu'ils devaient quand même avoir des distractions. Vivre joyeusement.
Были врагами в любой позиции.
On était ennemis dans tous les cas, on était ennemis de notre propre patrie, mais on était aussi ennemis de l'ennemi.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Aude Merlin, la baraque la plus gaie du camp.
Flight number 2, arriving from New York.
Не утирался весь оплеванный толпой. Только горько усмехался. Усмехался. Над собой.
Еще раз! Ребят, а двойной? А двойной? Давайте музыкальный. Ребят, приходится потерпеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правый, должна перейти. Еще раз. Еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ясно? Так, Мария. Наташа. нас, почему вы в полонезе-то идете?
On est dans les années 40, quelque part en Russie, quelque part qui n'est pas quand même n'importe où, même si c'est nulle part, même si c'est nulle part, même si c'est au bout du coupé du monde, au bout de tout, dans un camp. Dans un camp où il y a un théâtre. Ce théâtre, c'est celui-là. Ça pourrait être dans un autre camp, ailleurs, dans l'archipel du Goulag, qui a été construit par les détenus eux-mêmes. Celui de Vorkouta, celui où nous sommes, a été construit en bois par les détenus eux-mêmes. 400 places, le premier théâtre. Et ensuite, un autre théâtre a été construit en dur, celui-là. Et on y donnait des représentations, nombreuses représentations. Qui donnait les représentations? Eh bien, les détenus eux-mêmes. Dans ces détenus, à Vorkouta, il y avait beaucoup de politiques, entre guillemets. Et parmi ces politiques, eh bien, il y avait des artistes, il y avait des peintres, il y avait des metteurs en scène, il y avait des musiciens. Et ces musiciens, eh bien, ces artistes ont monté des spectacles. Pour qui ces spectacles et pourquoi? Pour qui? Eh bien, pour le personnel pénitentiaire, pour leurs propres gardiens. Il fallait que les gardiens aient des distractions pour faire leur métier avec zèle. C'était l'idée du goulag, c'est-à-dire de la direction générale des camps. Il fallait aussi donner l'idée que si ces hommes, ces femmes étaient détenus, c'était pour leur rééducation, bien sûr. C'était pour leur bien, bien sûr. Il y avait la rééducation par le travail. Le travail rééduque, bien évidemment. Mais aussi la culture. Mais aussi la distraction. Et on y a joué, pas seulement, comme on pourrait le penser, des pièces de propagande, des pièces soviétiques, réalistes, socialistes, comme on dira un peu plus tard. Mais non, on a joué dans ces théâtres, on a joué Tchekhov, on a joué des opérettes, on a joué des choses légères, mais on y a chanté des grands airs, on y a mis en musique des grandes poésies et au fond quelque chose de l'art et de la culture russe a sauvé sans doute ces hommes et ces femmes, mais a été sauvé par eux. Voilà que on oublie à quoi peut servir la culture. Pourquoi cette culture? Pour consommer, pour faire des napperons et des serviettes de bain, ou pour faire la queue pendant des heures pour aller voir une exposition ou une autre. Oui, bien sûr. Mais aussi, il y a des moments où la culture, l'humanité entière en dépend. L'humanité de chacun en dépend. Et là, ça a été une forme de résistance. Indéniablement, une forme de résistance. La direction des camps avait voulu qu'il y ait ces théâtres et ces artistes, certains metteurs en scène, libres, comme on disait, c'est-à-dire non détenus. Certains artistes non détenus, libres, sont venus de Moscou ou de Leningrad, des grandes villes, pour se mêler et diriger certains de ces spectacles. Et bien sûr, il y a eu des moments de résistance armée, il y a eu des grèves de la faim, des affrontements violents, mais il y a eu aussi cette forme de résistance dont la beauté, dont l'art, dont l'émotion, dont la culture a été et le moyen et l'enjeu. Et c'est des pages assez méconnues de cette histoire qui valent la peine d'être ouvertes et d'être entendues par les derniers témoins de cette histoire. Aujourd'hui, on va rencontrer deux femmes qui a plus de 80 ans, l'une à Syktyvkar, quelque part dans la République des Komis, non loin de Vorkouta, l'autre à Leningrad, se souviennent de cette époque, de leur jeunesse, de leur beauté, de ces moments d'émotion et de ce drame qu'a été le goulag, mais il y avait le théâtre.
Давайте музыкальный.
Trop. Не работает. Тут не есть.
Ну я по девичьей фамилии Барановская.
Mon nom de jeune fille c'est Барановская.
Мария Григорьевна.
Maria Grigorievna.
Bonjour, Wunder.
Et le nom de mon mari, c'est Wunder.
Все мои предки расстреляны.
Tous mes ancêtres ont été fusillés.
Oh, à quel moment?
Ну, кто когда, кто в 18-м году, кто в 20-м.
Ça dépend. Certains en 1918, 1920. Ma мама, мère,
я,
la dernière.
Quand
ils sont venus pendant la nuit.
И нас выгнали на снег на улицу.
Et qu'on nous a sortis dans la neige dehors.
Наше имение там уже было разорено там.
Tous nos biens ont été saccagés.
В каком-то флигеле там ютились.
On avait déjà été dépossédés de nos biens et on vivait dans un dans une petite remise. Ils sont venus.
А у мамы было четверо детей.
Ma mère avait quatre enfants.
Ну когда вот нас выгнали, это конечно, вы знаете, это страх боли.
Et quand on nous a fait sortir это comme ça, ребенку, vous savez,
c'était ребенку,
une peur telle qu'un enfant de un an peut l'imprimer et s'en rappeler.
Vous savez, кто нас приютил?
Vous savez qui nous a accueillis?
Цыгане.
Des Tziganes.
Два или три года мы были с цыганами.
Pendant deux ou trois ans, on a vécu chez des Tziganes.
Один мальчик, брат мой, Петрусик.
Mon petit frère Petrusik.
Он умер от голода.
Il est mort de faim.
Так тяжко мне говорить.
C'est difficile pour moi de parler.
Ну вот потом в 37 году.
En 37.
Я уже подросла.
J'avais grandi.
Мама сказала, училась уже не преследует, уже она работает. Ну кем бы ни работала, но работает. Она говорит, поехали, я тебе покажу там, где мы.
Ma mère m'a dit, je vais te montrer où était notre, notre maison, notre propriété. Et d'où on nous avait chassés. On est allé là-bas.
Où c'était ?
Le village de Goshev, c'est là qu'on avait notre maison.
Ah, c'est près d'où, Goshev ?
В России, в Советском Союзе, на Украине.
En Ukraine, en Union Soviétique.
С утра мы туда приехали.
Le matin, on est arrivé
là-bas.
On a fait à peu près 7
kilomètres.
On a marché dans le jardin, tout était détruit.
Et
une voiture arrive. Celle qu'on appelle les corbeaux noirs. Vous voyez ce que c'est ? Un corbeau noir.
Et
ma mère a été attrapée par 2-3 personnes.
Меня бросают.
Excuse-moi, on m'a jeté.
Какая-то канава там была.
Dans une espèce de caniveau.
И увозят маму.
Et ils ont emmené ma mère.
И на мой день рождения ее расстреливают.
Et le jour de mon anniversaire, ils l'ont fusillée.
Le 15 décembre.
Le 15 décembre.
37.
Dans peu de temps, ces voix se tairont, ces voix qui se souviennent encore de ces époques se tairont. Maria Vonder qui nous reçoit dans cet appartement un peu clair-obscur, dans un quartier un peu morne de cette ville, met du temps avant de commencer à parler. Et puis les souvenirs remontent, mais on comprend bien que faire remonter de tels souvenirs, c'est une douleur. Au mur, une belle photo en noir et blanc qui représente une ballerine, jeune ballerine, superbe. C'est elle. C'est elle. Maria a été danseuse. A dansé, était une très grande danseuse dans le théâtre du Goulag et par la suite dans sa vie. Et puis au mur, des peintures, un très très bon peintre des années 40 ou 50, un peu le style de Edward Hopper, si vous connaissez ce peintre américain, très très bon peintre. Eh bien c'est signé Vonder, ses peintures. Et Vonder, eh ben, elle s'appelle Maria Vonder, donc voilà. Vonder, c'était son mari, et c'était un peintre qui, lui aussi, est passé par le goulag. C'est cette histoire qu'on va écouter, qu'on va mêler à une autre histoire d'une autre femme contemporaine de Maria. Cette femme s'appelle Tamara Pietkiewicz. Elle est, on l'a rencontrée, elle, à Saint-Pétersbourg, j'allais dire Leningrad, à Saint-Pétersbourg, dans son appartement, un petit appartement cossu, très, on pense irrésistiblement, bien sûr, à un décor de Tchekhov, tant elle a aimé Tchekhov, et il y a, en face d'elle, sur le bureau où elle écrit des livres, il y a une photo d'une jeune femme, mais d'une beauté à mourir, on a envie de demander, mais où est-elle? Je veux la rencontrer tout de suite. Eh bien, elle est là, c'est elle-même, c'est Tamara, dans sa jeunesse et dans sa beauté, et elle parle.
J'ai 85 ans.
В 20-м году родилась,
а в 43-м году, et en 1943,
меня арестовали.
J'ai été arrêtée.
Ну вот в 37-м году арестовали моего отца.
Mon père, en 1937, a été arrêté.
Мой отец поляк.
Mon père était polonais.
И я по национальности полька.
Et moi, je suis polonaise de nationalité.
Этого уже достаточно.
И c'était suffisant.
Кроме того, отца обвиняли. Он был членом партии, он был коммунист.
De plus, mon père était membre du parti, il était communiste. On l'accusait.
Его обвиняли, ну, как врага народа.
On l'accusait d'être ennemi du peuple.
И в общем, он был расстрелян.
Il a été fusillé.
А меня арестовали, как бы формально это называлось. В военное время контрреволюционная агитация.
И moi officiellement j'ai été accusée de faire de l'agitation contre-révolutionnaire. C'était pendant la guerre.
Donc vous avez été arrêté dans quelles conditions?
Арестовали. Муж ушел в 7 часов утра на работу.
Mon mari était parti à 7 heures du matin au travail.
А я успела встать, сходить на рынок.
И moi j'avais eu le temps de me lever, d'aller au marché.
И когда я вернулась,
et quand je suis
меня
revenue,
уже ждала машина.
Il y avait une voiture qui m'attendait.
И я сидела в тюрьме.
Et j'ai été détenue en prison.
В камере, подвал.
Dans une cellule sous la terre.
А потом был как
dans une cave.
Суд.
Après, il y a eu un semblant de procès.
Et мне объявили приговор.
On m'a donné ma condamnation.
7 лет лагерей.
7 ans de camp.
3 года лишения в правах.
3 ans de privation des droits.
И конфискация всего имущества.
Et la confiscation de tous mes biens.
И отправили в лагеря.
Et on m'a envoyé en camp.
10-15 millions de soviétiques ont été ainsi envoyés en camp, sauf que Tamara n'était pas, elle, soviétique, elle était polonaise. Il y a un certain nombre de Polonais, par dizaines de milliers, qui ont été envoyés au goulag, tout comme des Allemands, tout comme des Allemands de l'intérieur. C'est toute cette histoire qui passe à travers ces mots aujourd'hui. Tamara a été libérée en 1950, après 7 ans donc, de camp. Elle a été réhabilitée seulement en 1956. On lui a dit, au fond, oui, vous n'étiez coupable de rien. Voilà. Et ensuite, elle a vécu sa vie d'écrivain et de femme de théâtre, parce que c'est devenue une femme de théâtre, une critique aussi de théâtre. Et elle était là-bas, au cours de ces 7 années de camp, eh bien, elle a contribué à construire cette fameuse voie ferrée qui monte vers le Grand Nord.
Мы строили дорогу.
On a construit des
железную,
routes,
по которой
la voie ferrée, la voie ferrée que vous avez empruntée.
А вот эта дорога на Коме, она разрешала помогать фронту.
Et cette voie ferrée a permis d'approvisionner le front.
Поэтому мы были просто рабочей силой.
Donc on était une force de travail.
Никто во время войны думать о перевоспитании не мог.
Et pendant la guerre, personne ne pouvait penser à la rééducation. C'était juste, on était une main d'œuvre.
Est-ce qu'on vous associe à l'effort de guerre contre le fascisme?
Нет, это люди сами, во-первых, понимали, отстаивали враги, не враги, но все-таки отстаивали Россию.
Ils comprenaient bien que ennemi ou pas ennemi du peuple, ils défendaient la Russie. En
Никто этого не говорил, это не надо.
Personne le disait, c'était pas la peine d'en parler.
Мы были врагами в любой позиции к собственному государству.
On était ennemis dans tous les cas, on était ennemis de notre propre patrie, mais on était aussi ennemis de l'ennemi.
plusieurs rescapés du goulag nous ont raconté ce, en effet cette histoire. Comment pendant la guerre, face à l'invasion allemande, entre les détenus, les ennemis du peuple et les gardiens, il y avait une solidarité, ce qu'elle pouvait être évidemment, cette solidarité compte tenu de la cruauté et de la barbarie qui régnait dans ces camps, mais il y avait quand même une solidarité contre l'ennemi commun qui envahissait la patrie. Alors Tamara donc a été elle arrêtée, mais Maria qu'on retrouve, Maria la ballerine, l'ancienne ballerine, elle n'a pas été détenue. Elle son père travaillait à la construction, et c'était un libre comme on disait, et il travaillait à diriger la construction de cette fameuse voie ferrée, et Maria toute gamine eh bien suivait son père dans son travail.
Ну, в то время, во время войны эта дорога, она не нужна была.
Et pendant la guerre, cette voie ferroviaire n'était pas nécessaire. Ce qu'il fallait, c'était du charbon pour le pays.
Поэтому за год.
C'est pourquoi en un an,
эту дорогу,
cette voie ferrée,
Кожево-Воркута, это,
a été construite de Кожево à Воркута.
Я не знаю, сколько километров.
Je ne peux pas vous dire combien de kilomètres c'est.
Около 1900
Mais ça doit bien faire 1200 kilomètres.
Представляете, ни домов, ничего нет.
Vous imaginez, il n'y avait rien, il n'y avait pas de maison, de la neige, et c'est tout.
Вот палатки там поставят.
Il y avait des tentes.
Как солдатские.
Donc des tentes
de soldats. Ничего не было.
Et là, il n'y avait pas de bourgeois, rien.
Но замерзали люди.
Et les gens crevaient de froid.
Рельсу, железную дорогу, знаете, что такое рельсу?
Vous voyez les rails d'une voie ferrée.
Человек 200 объехать ее. И кричат, раз, два, взяли.
Imaginez des dizaines de travailleurs qui crient, un, deux, et ils tombaient tous.
И там столько трупов было.
Il y avait combien de cadavres?
А это зимой дорога строилась.
Cette route, elle a été construite en hiver.
И вот когда весной.
Et au printemps.
Это все растаяло.
Quand la neige fondait.
Эти кости, эти там скелеты,
все там было. Les os, les squelettes.
Это
Un cauchemar. Et nous, les enfants, on courait, on jouait.
Сталин дал такой приказ,
что
заключенные должны весело жить.
A donné l'ordre selon lequel les détenus devaient vivre joyeusement.
Они умирают, но они должны весело жить.
Qu'ils mouraient, mais qu'ils devaient quand même avoir des distractions, vivre joyeusement.
Был создан театр в Инте.
Il y a un théâtre qui a été fondé à Инта.
À
Абис.
И Воркута.
Et à Воркута.
Мы это открыли в 43-м году.
C'était en 43.
26 ноября этот театр.
Le 26 novembre.
Но самый сильный театр был по красоте, по всему. Это, конечно, Воркутинский.
Et le théâtre le plus fort, le plus beau, c'était bien sûr celui de Воркута.
Я не знаю точное количество, сколько заключенных было.
Je ne peux pas vous dire le nombre exact de détenus qu'il y avait.
8 миллиона точно было.
Mais il y avait plus d'un million, ça c'est sûr. Même plus d'un million.
Так называемые Олпы.
On appelait ça les Alpes, OLP.
Эти Олпы, вот, были вышки.
Il y avait des Miradors автоматы, sur chaque Alpe, avec des armes automatiques.
Я пришла в театр, мне было 15,5 лет.
Je suis arrivée au théâtre, j'avais 15 ans et demi.
Votre père travaillait à la direction de la construction de la voie ferrée. C'est à ce titre-là que vous vous êtes retrouvée à Воркута. Mais vous étiez une jeune femme qui a appris la danse, mais vous n'étiez pas détenue.
Oui, j'étais la plus jeune au théâtre.
Nous étions 14 человек вольных.
On était 14 libres au théâtre. Tous les autres, c'était les détenus.
Но вы не представляете, какая это культура была.
Vous imaginez pas quelle culture c'était.
Никто никого не звал там Маня, Таня, а все звали друг друга по имени и отчества.
Он s'appelait par le prénom et le patronyme, on s'appelait jamais par
говорили,
des именитивы.
Мы пришли служить искусству.
Et tout le monde disait on est venu pour servir l'art.
А теперь говорят, мы идём на работу.
Aujourd'hui les gens disent on va au travail.
А мы служили искусству.
Et nous, on était les serviteurs de l'art.
Вот и Веракса, и Иван Сильверстович.
Voilà, Вераксия и Иван Сильверстович.
У меня хорошая школа.
M'ont enseigné, ils avaient une bonne école.
Так как они меня учили, училище в балетном, такого внимания нету. Et тем более они же заключенные были.
Ils étaient détenus, ils m'accordaient une...
А я им носила кушать.
Moi, je leur apportais à manger.
Они умирали же почти с голода.
Ils mouraient de faim.
Пилагрики были, знаете, что такое пилагрик? Это человек уже, когда у него
пилагрик.
Кости и кожа.
C'est quand quelqu'un n'a plus que la peau sur les os.
Вот это, вот они уже такие были.
Ils étaient dans cet état-là.
Я носила им все время кушать.
Et je leur apportais tout le temps à manger.
Вот вы видели эти концлагеря немецкие?
Vous avez vu ces camps de concentration allemands qu'on montre à
la télé? Вот такие заключенные были в Воркуте.
Les détenus de Vorkuta, ils étaient dans cet état.
После той игры, что было, хотя они вы знаете, как артистов приводили в театр?
Vous savez comment on emmenait les artistes au théâtre?
Колонна артистов.
Donc ils arrivent en colonne.
Человек, наверное, 400 было в театре.
Il y avait 400 à peu près au théâtre. 350.
Собаки сзади.
Avec les chiens derrière.
Собаки впереди.
Les chiens devant.
Собаки по бокам.
Les chiens sur les côtés.
И вохровцы.
Et les gardes.
С винтовками.
Avec les fusils.
Ну, приходят артисты в театр, раздеваются.
Les artistes arrivent au théâtre, ils enlevaient leurs vêtements, ils soufflaient.
И говорят, наконец мы люди.
Et ils disent, enfin nous sommes des gens, nous sommes des personnes humaines.
Valentina Ishenka, vous l'avez connue?
Vous знали ее, Валентину Ishenka?
Она у нас в хоре пела.
Oui, oui, elle chantait dans le chœur.
Она у нас пела в хоре, а когда в Сыктывкаре организовали музыкальный театр,
et quand à Сыктывкар, le théâtre de musique a été organisé, elle a chanté comme soliste. Elle a chanté le rôle de Татьяна dans Eugène Onegin.
Ну, в общем, все оперы она пела.
Et tous les opéras, tous les airs d'opéra.
А у нас она была в хоре, представляете?
Et nous, elle était dans le chœur, vous imaginez?
Представляете, какие голоса у нас были?
Vous imaginez, on avait des voix.
А у нее прекрасный голос.
Elle a une voix extraordinaire. Elle avait une voix extraordinaire.
On l'a rencontrée hier, on l'a vue hier.
Est-ce qu'il est vide, il est sûr. Elle est encore vivante?
Oui. Valentina Ishenka, effectivement, on l'a rencontrée hier. Vous l'avez entendue, cette cantatrice extraordinaire qui nous a reçus chez elle. Elle a aujourd'hui, elle est dans un fauteuil roulant, mais ça n'empêche pas du tout ni sa beauté, ni sa lucidité. Elle nous a reçus avec son éventail à la main et nous a fait cadeau de cette cassette avec les chants qu'elle a enregistrés. Et qui sont dans toutes les mémoires, non seulement des anciens du théâtre des Goulags de Vorkuta, mais dans l'esprit aussi de ses contemporains.
Люди, я встречала там совершенно замечательных людей, умных людей.
J'ai rencontré là-bas des gens extraordinaires, très intelligents.
Которым ничего не надо было ни объяснять, они сами могли. Это были люди, которые...
À qui n'était pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit.
Люди, которые... Редакторы большой советской энциклопедии.
Des rédacteurs de la grande encyclopédie soviétique.
Писатели.
Des écrivains.
И инженеры.
Des ingénieurs.
Врачи.
Des médecins.
И все, им не надо было объяснять.
Des gens à qui il n'y avait rien à expliquer.
Est-ce qu'il y a eu des... Vous avez pu...
assisté à des actes de résistance, de rébellion, de fuite peut-être? Est-ce que certains essayaient de fuir? Vous avez essayé vous-même?
Chacun voulait fuir, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas essayé. Parce que c'était inutile.
Потому что люди, которые бежали, решались на
побег. Parce que les gens qui arrivaient à se décider à s'enfuir,
их все равно ловили.
Ils étaient de toute façon rattrapés.
Убивали.
Tués.
И когда мы возвращались с работы,
et quand on revenait du travail,
то этот расстрелянный лежал у входа.
Le détenu fusillé était juste à l'entrée du camp, couché.
Чтобы все видели,
чем это кончилось. Pour que tout le monde voit par quoi ça se terminerait si on tentait de fuir.
Tamara Piatkevitch à Saint-Pétersbourg, Maria Vonder à quelques milliers de kilomètres de là à Syktyvkar, deux femmes qui sont passées par ce théâtre du Goulag à Vorkouta. Alors, chaque chef de camp, parce qu'il n'y avait pas que Vorkouta, il y avait dans d'autres Goulags, dans la région, il y avait d'autres théâtres, et en fait, chaque chef de camp, à un moment de l'histoire, voulait avoir le plus grand théâtre, le plus beau théâtre, avec les meilleurs comédiens et les plus belles mises en scène. Alors il y a eu toute une compétition et un beau jour, Tamara a commencé à faire du théâtre.
Voilà,
le chef du camp a vu une photo et ça suffisait.
Et il a dit, c'est une, elle est trop belle, c'est une belle femme.
On сказал, она красивая женщина. Il dit, il faut qu'on puisse la voir.
У нас был оркестр,
очень хороший. Оркестр, un très bon orchestre.
У нас были замечательные музыканты.
On avait d'extraordinaires musiciens.
И мы объезжали весь лагерь.
Et on faisait le tour de toutes les colonies. De
notre camp. Даже вот в другой лагерь
d'autres camps.
И мы обслуживали заключенных всех колонн всего этого лагеря.
Et donc on faisait des prestations dans toutes les colonies du camp et même parfois d'autres camps pour tous les détenus.
Мы были, конечно, для всех радостью.
Et nous, on était une joie pour tous.
Et ждали, чтобы мы письма брали, где-то.
Ils nous attendaient pour qu'on puisse prendre des lettres et les faire passer.
Мы были для людей, когда приезжали, то как бы люди не уставали.
Pour les détenus, после quand on arrivait, avec toute la fatigue qu'ils pouvaient avoir après la journée de travail.
Они скорее ужинали.
Ils mangeaient le plus vite possible.
Et когда люди слышали первые аккорды музыки.
Et quand les détenus entendaient le premier accord de musique.
Et les pièces.
Ou une chanson.
Плакали.
Bien sûr, ils pleuraient.
Ils плакали, радовались.
Ils pleuraient de joie aussi.
Дома моя ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Qu'est-ce que vous avez joué comme ça, comme spectacle?
Alexandre,
il mettait en scène des pièces de Tchekhov.
Чехова лучше всего, конечно, люди принимали, когда это была комедия. «Юбилей», «Медведь», «Одноактный».
Les gens préféraient les comédies. L'ours, медведь.
Медведь, юбилей.
L'anniversaire.
Предложение.
La proposition.
Вот, но ставили большие пьесы.
Il y avait de grandes pièces qui étaient mises en scène.
Люди начинали смеяться.
Les gens se mettaient à rire.
А разучившись, они год могли не смеяться.
Ils ne savaient plus rire, ils avaient pendant un an, n'avaient jamais ri.
На это,
et en venant
они
à
смеялись
la pièce,
у десятеренной силой,
et ils se mettaient à rire avec une force extraordinaire.
Они становились тоже людьми, потому что они...
Et ils redevenaient des gens à ce moment-là, de vraies personnes.
Ходили суровыми,
parce que tous les jours, désolé, quand ils allaient travailler, ils avaient le visage figé, très dur, sans aucun sourire.
А здесь они...
Et là...
Когда это мы касались сферы чувств.
Nous, on arrivait à toucher la sphère du sentiment.
Конечно, мы много давали, и они нам давали.
C'est sûr qu'on donnait beaucoup, et eux, ils nous donnaient beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez pensé le jour de la mort de Staline?
Я танцевала.
J'ai dansé.
Я бешено танцевала по комнате.
J'ai dansé follement dans ma chambre.
Я работала в театре.
Travaillais au théâtre.
И жила в театре.
Je vivais au théâtre.
И услышала по приемнику.
Et j'ai entendu.
Я сорвалась.
Je me suis déchaînée.
Они были все в ссылках после отсидки. Я думала, что они все вернутся, что все сразу переменится.
И je me suis dit qu'ils allaient tous revenir et que tout allait changer.
Vous êtes rentré quand, vous? Vous avez été libéré quand?
В 50-м году.
En 1950, j'ai été libéré.
Voilà. Racontez-moi le jour où vous êtes parti et vous avez laissé vos copains, vos...
Ну, я жила около лагеря. Носила передачи.
J'ai vécu juste à côté du camp.
Ah bon, vous n'êtes pas partie au loin?
Нет, я там жила.
Non, j'ai vécu à côté.
Et qu'est-ce que vous faisiez?
Уборщицей меня взяли в амбулаторию.
J'ai été prise dans un ambulatoire comme femme de maison, comme femme de ménage.
Et le théâtre, terminé?
Там же не было театра.
Il n'y avait pas de théâtre.
Я потом...
Ah non, ça vous manquait?
Мне хлеба не хватало.
C'était le pain qui me manquait.
И жилья не было.
Et j'avais pas de logement.
Я жила на полу на кухне у знакомых.
Je vivais, je dormais par terre dans la cuisine chez des gens que je connaissais.
Mais le théâtre vous manquait?
Мне всю жизнь не хватало театра.
Le théâtre m'a manqué toute ma vie.
Меня потом взяли филиал Сыктывкарского театра.
Après, la filiale du théâtre de Сыктывкар m'a embauché.
Я к ним в вагоне ночевала.
Et moi j'allais dormir parfois dans leur wagon quand je revenais.
Заключенными.
Je revenais avec les détenus pour dormir avec eux dans le wagon.
Qu'est-ce que vous avez pensé alors on a parlé de la mort de Staline, mais de l'effondrement du communisme en 89, enfin en 91 ici. Ça vous a réjoui?
Bien sûr. Bien sûr. Comment on peut avoir un autre point de vue?
Жизнь извечна, столько замечательных людей, как бы знала.
Cette vie qui a mutilé combien de personnes formidables, dont certaines que j'ai
connues. Им же дело до человека как такового, им дела не было никогда. Там только обозначались какие-то прожекты.
Ils n'ont jamais réussi à concevoir ce que c'est que l'être humain. Ils étaient toujours englués dans des projets.
Нет, я счастлива, что я дожила до этого времени.
Je suis contente d'avoir vu ce moment, d'avoir pu vivre jusqu'au moment.
Ah, jusqu'à l'effondrement.
Нет, ну что да, что они, и что сегодня вы можете прийти ко мне.
Oui, le fait qu'aujourd'hui vous puissiez venir chez moi,
et me
voir.
Мы можем говорить.
Qu'on puisse parler.
Конечно.
Bien sûr.
Конечно, изменилось. Конечно, никто из моих друзей не дожил до этого.
Et personne de mes amis n'a pu vivre jusqu'à ce moment.
C'était un reportage avec Aude Merlin tourné en mai 2005. Merci à Valentina, Tamara, ainsi qu'à Maria et Alexander. D'autre part, pour soutenir Salima et Salma, un rassemblement est organisé à Clermont-Ferrand demain, samedi 6 février à 14h devant la préfecture. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, rubrique Là-bas si j'y suis. À la technique, Éric Mainviel et Dimitri Gronoff. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterde, assistante Agnès Le Bot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
Waouh, elle est chouette ta nouvelle voiture.
Oui, merci.
Et t'as dû l'assurer tout risque, j'imagine.
Non, aucun risque.
Hein?
Bah oui, avec l'assurance auto de la MACSF, je ne prends aucun risque. Quoi qu'il m'arrive, la MACSF m'accompagne au quotidien. Crevaison, panne d'essence, elle trouve toujours la solution, même si je me trompe de carburant.
C'est ce qui s'appelle ne prendre aucun risque.
Oui, appelle la MACSF au 3233 ou va sur macsf.fr. C'est pour tous les professionnels de la santé.
3233, aucun risque de l'oublier.
MACSF.
Notre vocation,
c'est vous. Prix d'un appel local.
France Inter présente Régis Maillot dans le rapport Maillot, la France est à vendre. Actuellement en spectacle à la Comédie de Paris.
Un sans-papier qui fait grève, c'est déjà une belle preuve d'intégration au système social français.
Retrouvez les chroniques vitriolles de Régis Maillot dans le Feu du Roi chaque vendredi.
À suivre le Carrefour de l'Odéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Vous retrouvez Angélique Bouin pour les informations.
Un revers pour les pirates somaliens qui écument le golfe d'Aden. Les forces spéciales danoises, membres de l'OTAN, ont repris de force ce matin le contrôle d'un navire dont ils s'étaient emparés un peu plus tôt. Ils ont pu libérer leurs 25 membres d'équipage qui avaient été regroupés dans une pièce du bateau. On ne sait pas encore s'ils ont en revanche procédé à des arrestations de pirates. La France n'enverra pas plus de 80 soldats en renfort en Afghanistan et uniquement des instructeurs, pas des combattants, selon le ministre de la Défense, Hervé Morin. Une réponse à minima à la demande des Américains. L'Italie annonce de son côté 1000 soldats en renfort, le Royaume-Uni et l'Allemagne 500 chacun. Après le rappel de près de 8 millions de véhicules dans le monde, le PDG de Toyota sort de son silence et implore le pardon de ses clients. Lors d'un point de presse, Akio Toyoda s'est également excusé auprès de ses actionnaires. Le cours du titre a fondu de plus de 20% depuis le début de cette crise. Les plages de Floride sont désertées depuis l'attaque mercredi d'un jeune surfeur par des requins. Il évoluait en kitesurf, un surf avec une voile quand il a été attaqué. Transporté à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. Depuis, les baigneurs n'osent plus s'aventurer dans la mer, et cela malgré les messages rassurants des autorités. Ce type d'attaque est rarissime. Chaque année, en moyenne, 4 personnes sont tuées par des requins dans le monde, selon un chercheur spécialiste du sujet de l'université de Miami. Cet animal ne mord pas à moins d'être provoqué, assure-t-il. En France, l'actualité est marquée par le soulagement chez les salariés de Continental de Clairoy, dans l'Oise. 6 d'entre eux étaient jugés pour avoir saccagé une partie de la sous-préfecture de Compiègne l'an dernier. En appel, la justice a été plus clémente qu'en première instance. Ils écopent d'amendes allant de 2 à 4 000 euros, mais pas de peine de prison avec sursis, comme le réclamait le ministère public. On ne peut pas revenir sur 15 ou 20 ans d'agriculture d'un claquement de doigts. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, le ministre en charge du secteur, alors qu'il présentait tout à l'heure le plan anti-algues du gouvernement. Un plan qui marque tout de même un tournant, a-t-il promis lors d'un déplacement à Rennes. Les pratiques et les méthodes doivent changer, mais s'il n'y a pas de résultat, alors on passera à un dispositif obligatoire et réglementaire, a dit le ministre. La prolifération des algues vertes en Bretagne est liée à l'utilisation d'engrais. Le gouvernement a débloqué 134 millions d'euros sur 5 ans pour tenter de régler le problème. Une somme qui servira en particulier à nettoyer les plages. Le bisphéthanol A, notamment employé dans la fabrication des biberons, est-il dangereux ? La question est relancée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'un de ses avis, elle reconnaît l'existence de signaux d'alerte et préconise de développer de nouvelles méthodes d'évaluation sur ces risques. La secrétaire générale des Verts, Cécile Duflot, estime qu'il est urgent d'agir et demande le retrait immédiat des biberons qui en contiennent. Elle rappelle que le gouvernement canadien les a interdits depuis 2008 et affirme que 90% des études collectées par le réseau Environnement Santé soulignent sa nocivité. Il est 16h03 sur France Inter.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends pour des enregistrements du jeu des 1000 euros dans le Rhône. Aujourd'hui, nous sommes à Fontaine-Saint-Martin à 18h30 à la salle des fêtes. Et demain, à Saint-Genis-Laval, à l'espace culturel. Attention, à 14h30. L'entrée est libre et gratuite.
France Inter et le Théâtre de la Ville présentent du 8 au 13 février Out of Context for Pina, la dernière création d'Alain Platel. Dans cette chorégraphie épurée, 9 danseurs des Ballets de l'Abbé racontent le blues des existences sur un tempo de cirque désaccordé. Retrouvez Alain Platel dans les émissions de France Inter.
France Inter, partenaire du Printemps de Bourges du 13 au 18 avril. 6 jours de concert et plus de 40 artistes avec M, John Butler Trio, Olivia Ruiz, Carmen Maria Vega, Iggy and the Stooges. France Inter avec le Crédit Mutuel donne le la au Printemps de Bourges.
Merci.
Renseignements sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
16h04 sur Inter, je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, ça y est, elles reviennent comme tous les ans, et heureusement, les Victoires de la Musique Classique, 17e édition, ce sera lundi en direct de Montpellier, à 20h35 sur France Inter et France 3. Donc, parmi ceux qui sont cités, soit dans le programme de la soirée, soit pour le palmarès, ben, on va entendre quelques interprètes qui sont tout à fait passionnants, des gens extraordinaires qui ont gravé déjà pas mal d'enregistrements, ou quelquefois des plus novices, enfin, peu importe. Ils font partie de l'histoire de ce 8 février à Montpellier. Et je vous propose tout de suite un ensemble qui figurait déjà l'année dernière, mais qui aura pu avoir une belle récompense. Le Quatuor Eben, qui a publié ces jours-ci un disque Brahms avec la pianiste Akiko Yamamoto. Je vous propose là maintenant le Scherzo du quintet avec piano de Johannes Brahms. Conclusion du scherzo du quintet avec piano de Johannes Brahms par le quatuor Eben, qui est nommé encore une fois aux Victoires de la musique. Ça se déroulera lundi, je le rappelle. France Inter et France 3 s'en font l'écho. Et à 20h35, donc, ils sont nommés dans la catégorie formation de musique de chambre. On leur souhaite tout de bon, évidemment. Comme on souhaite aussi une éventuelle réussite. Mais évidemment, je rappelle aussi que, ces ensembles ont déjà une très belle carrière. La victoire, c'est un plus. Mais enfin, ils ont de toute façon un chemin tout tracé. Donc, on peut aussi souhaiter le meilleur au Café Zimmermann, ensemble qui joue entre autres du Jean-Sébastien Bach, parce que Jean-Sébastien Bach jouait de temps en temps assez régulièrement avec des jeunes qui étaient soit ses élèves, soit ses fils, dans ce fameux Café Zimmermann à Leipzig. Il n'était pas seulement un musicien d'église, et là, il interprétait beaucoup de musique instrumentale. Voici un exemple de ces pièces qui étaient jouées soit dans le café ou quand il faisait très beau, devant, et là, il y avait une espèce de terrasse, et